Allez, s'il vous plaît. Encore une heure à s'accrocher. Deux trucs. J'ai pas de retour. Je consulterai mes mails sur la fin de l'heure pour voir. Pour l'instant, j'ai pas de retour d'e-campus. Est-ce que certains d'entre vous ont Twitter? Ceux qui ont Twitter, je mettrai l'information sur mon compte à moi. Donc jetez un œil, bah je fais ce que je peux. Hein. Pas vous contacter sur e-campus. Je mettrai l'info sur Twitter si j'ai une réponse. Donc que ceux qui ont Twitter fassent un peu tourner l'information. Je crois que vous avez un groupe WhatsApp maintenant. Donc prévenez si j'arrive à obtenir les modalités pour que vous puissiez vous connecter sur e-campus. Je le mettrai là. Je ne sais pas où le mettre sinon. Deuxième chose. J'ai oublié d'en parler. Et on n'en parle jamais, et ça m'énerve qu'on n'en parle pas. Et... pas grave. Donc oui, la question a été posée d'abord. Le travail à faire pour la première séance, il faut venir avec à la première séance. Vous serez ramassés, certains seront ramassés à la première séance. Un truc. Je ne veux porter aucun jugement sur l'éducation nationale, elle est ce qu'elle est pour plein de raisons, y compris budgétaires, mais il y a des courants qui considèrent que finalement la maîtrise de l'orthographe, c'est pas si grave et qu'on peut être souple, etc. Alors, c'est rarement le cas en droit, ça ne sera pas mon cas à moi du tout. Si vous êtes à l'arrache sur l'orthographe, il est temps de s'y mettre. Je vous ai dit que c'était un métier de l'oralité, c'est aussi un métier de l'écrit, on fait les deux. Hein. Et quand on ne maîtrise pas sa langue et qu'on ne sait pas écrire en maîtrisant le français, bah, on n'est pas compréhensible en fait, c'est pas très compliqué, ça va assez vite, ça se réduit à ça. C'est devenu une espèce d'insulte de « tu devrais t'acheter un Becherel ». Achetez-vous un Becherel. Il n'y a pas de honte, hein. Moi j'en ai un Becherel à la maison. Voilà. Achetez-vous un Becherel, bossez l'orthographe. Vous serez, s'il vous plaît, vous serez sanctionné là-dessus. En intro, je ne sais pas comment fonctionnent mes collègues, en intro, on descend jusqu'à moins 3, voire moins 4 sur une copie. Alors, pour en rassurer certains, généralement, quand il faut descendre jusqu'à moins 4, de toute façon, on n'a plus l'amplitude pour enlever les points. Parce que la copie est incompréhensible. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? S'il vous plaît, je vous promets que c'est important et que dans quelques années, vous vous en rendrez compte. Ce discours qui consiste à vous dire « Ouais, la langue, finalement, ça vit, et si on n'arrive pas à maîtriser l'orthographe ?» Généralement, les gens qui vous disent ça, ils sont ultra exigeants avec leurs propres enfants sur la maîtrise de la langue. Et c'est des règles qui sont très bien pour les autres. Donc non. En fait, la langue, oui, c'est quelque chose qui vit, mais c'est quelque chose qui vit dans un contenu qui est quand même relativement encadré. Et il y a des règles d'orthographe et de syntaxe. Et quand on ne les respecte pas, on ne comprend rien. C'est-à-dire que quand je vous dis...
Attendez une seconde.
Quand on dit on est descendu exceptionnellement jusqu'à moins 4, il y a des phrases, et je vous promets que c'est vrai, dans certaines copies, que j'ai dû lire à haute voix pour avoir la sonorité. Parce que je ne comprenais pas l'écrit. Et que c'est la sonorité de ce qui était écrit qui m'a permis de comprendre ce que l'étudiant voulait dire. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et vous allez vous planter. Et alors, les 17-18 que vous aviez au lycée en écrivant comme on écrit à l'école, c'est fini. Il vaut mieux que vous le sachiez maintenant plutôt que d'avoir un discours hyper bienveillant. Oui, non, pas de problème. Et puis c'est plus complexe que ça. Amusez-vous à envoyer un courrier de candidature dans un cabinet ou une boîte pour avoir un stage si vous écrivez comme ça. Ils ne vont même pas vous lire, ils vont lire deux phrases et ils vont balancer. Voilà. Donc, on s'achète un Becherel, on consulte un dictionnaire quand on n'est pas sûr de l'orthographe des mots, on active la correction automatique sur Word. Faites attention. Voilà. En fait, d'être compréhensible, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ça nécessite un minimum de maîtrise de la langue. Et cette espèce de légende urbaine, encore une fois, qui consiste à dire « Oh, c'est pas grave, il faut faire abstraction. dis encore une fois, quand vous voyez comment les gens qui vous disent ça fonctionnent avec leurs propres enfants, ouais, vous vous dites que finalement, si, c'est sans doute un peu important. Donc chez moi, en intro, on sanctionnera très largement l'absence de maîtrise de l'écrit. C'est très souvent le cas en droit. Hein. Par ailleurs, on parle là des candidatures en stage, etc. Alors j'ai bien conscience que, a fortiori en première année, c'est souvent très compliqué d'obtenir un stage. Si vous essayez, soignez la forme. Donc je vous dis sur l'orthographe, sur l'écrit, sur la syntaxe, ayez pas une adresse mail genre Végéta du 91 ou... J'en ai plein des exemples. C'est des vrais exemples. La bombe du 78. Et on reçoit nous des mails comme ça. Alors moi, c'est pas grave. Enfin, ça me fait sourire. J'aime bien les adresses avec des BZ et étonnamment, il y en a beaucoup. Que vous en ayez pour vous, c'est super. Mais faites gaffe maintenant, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est-à-dire que vous avez votre identité à vous, avec vos comptes, privés, hein, parce qu'un employeur, ça vous googlise, et que si tout ce qu'on trouve sur vous, c'est des pseudos comme ça, où vous êtes mort bourré dans un caniveau le 31 décembre, voilà. Donc si vous avez des comptes sur Insta, sur Snapchat, etc., tant mieux, c'est des comptes privés, voilà. Ne peuvent accéder à vos contenus que des gens que vous suivez et qui vous suivent, pas le reste du monde. Et sur le reste du monde, vous commencez, c'est un conseil que je vous donne, vous faites ce que vous voulez, c'est évidemment pas... Et j'ai pas d'action chez LinkedIn. Commencez à vous créer une image en ligne de juriste. Voilà. Avec un compte qui s'appelle pas n'importe comment, mais qui a votre prénom et votre nom, où vous indiquez que vous êtes étudiant à l'université en droit, ou de temps en temps vous relayez ou vous avez liké des posts sur la cour de cassation, peu importe. Dites-vous que 99 fois sur 100 maintenant, un employeur pour un stage, pour un CDI, etc., il va vous googliser. Voilà. Qu'est-ce qui sort de vous quand on va vous chercher sur Internet? Bah, sélectionnez un peu ce que vous voulez qu'on voit de vous. Un profil LinkedIn avec une jolie photo, ça c'est pareil, pas dans un reflet de voiture en selfie, une vraie photo normale. Ça contribue à tout ça. Et croyez-moi, vraiment, j'insiste là-dessus parce que ce faux discours qui en fait crée une rupture d'égalité entre ceux à qui on dit la vérité et ceux à qui on la dit pas me rend dingue, si c'est important. Voilà. Moi je dirais j'ai un M2 en alternance, donc avec des contrats de professionnalisation. Donc j'ai des échanges très fréquents avec des cabinets, des grosses boîtes, etc. Je peux vous dire que c'est décisif. Décisif. La première impression qui se font de vous, elle est sur la façon dont vous avez présenté un CV, une lettre de motivation, le type d'image que vous allez renvoyer. Et cet avis-là, alors c'est peut-être horrible parce que bien sûr qu'il y a plein de choses à dire d'autres de vous, mais quand on reçoit 150 candidatures, croyez-moi, on n'a pas le temps d'aller chercher la personne que vous êtes et que on se fait un avis en 20 secondes. Quel est l'avis que vous voulez qu'on se fasse de vous en 20 secondes? Voilà. Et pensez-le comme ça. Et encore une fois, écoutez pas les gens qui vous disent « ça n'a aucune importance ». Si, si, bien sûr, je vous promets. C'est décisif et on essaye de faire croire que ça n'a pas d'importance tout en continuant à former une espèce d'élite à part qui, elle, maîtrise aucun problème, connaît les codes, sait qu'on n'écrit pas les mails n'importe comment. Dites madame, monsieur, vous avez des formules de politesse employées à la fin. C'est pénible et à chaque fois on voit des threads passer sur Twitter. Ah, les juristes, relou, ils parlent de cordialement, il ne faut pas mettre cordialement, il faut mettre respectueusement. Ouais, c'est vrai. Parfois c'est pénible, les règles à respecter comme ça de manière impérative. Il n'empêche que vous êtes du mauvais côté de la barrière pour l'instant et que si vous ne le faites pas, c'est vous qui allez sauter. Donc faites-le. Même si ça vous gonfle, après quand vous serez tout en haut, vous déciderez comment vous voulez faire. Voilà. Mais tant que ce n'est pas le cas, croyez-moi, écoutez pas les trucs qu'on vous dit et suivez le mouvement. Je m'arrête là, mais ça me paraissait essentiel aussi que vous ayez ces infos-là qu'encore une fois, on ne vous donne jamais. Et si vous êtes mauvais en orthographe, c'est pas grave. On vous propose toujours le projet Voltaire. Faites-le. Tous, faites-le. Vraiment, je vous jure. C'est pénible, ça prend du temps en plus, ça. Mais il faut le faire. Vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans. Vous voyez à quel point on a besoin de parler un droit, en fait. Vous ne pouvez pas si vous ne maîtrisez pas la langue. C'est pas possible. Et, s'il vous plaît. Je vous jure, ça paraît anecdotique parce que ce n'est pas dans le cours même, mais en fait, vous aurez beau apprendre tous les cours que vous voudrez, faire toutes les fiches d'arrêt que vous voudrez, etc. Ça va bloquer là-dessus. Il y a un moment où ça va bloquer là-dessus. Et c'est terrible. Parce qu'on ne donne pas les mêmes clés à tout le monde. Donc moi, je vous les donne. Elles ne sont pas très agréables à entendre, parfois. Je le conçois tout à fait. Je déteste ce double langage. C'est essentiel pour tout le monde. Et si vous voulez pouvoir vous en sortir aussi, il faut vous plier à ça. Vraiment. On en reparlera si vous en avez besoin derrière. Mais donc, pensez maintenant à renvoyer une image du juriste. Et le juriste n'est pas très rigolo. Voilà. On est un peu... On est carré. Donc, renvoyez une image carrée. Ce qui ne vous empêche pas de vous amuser à côté, mais ça ne vous concerne plus. Donc, on a fait 1 à l'égard de 2, 1 à l'égard de 3 et 2 à l'égard de 3. On va voir maintenant 3 à l'égard de 4, un peu de 5. Pour dire les choses dans un langage technique, c'est la question du contrôle de l'égalité. En un seul mot, hein, évidemment, c'est pas L apostrophe. Contrôle de l'égalité au sens de conformité de la loi. Enfin, conformité à la loi, pardon. Je vais aller beaucoup plus vite sur celui-là parce que vous approfondirez ça très nettement en droit administratif l'année prochaine. Je veux juste que vous sachiez qu'il existe ce contrôle de l'égalité. Vous avez compris, hein, du coup, on est encore descendu d'un étage et là, ce qui nous intéresse, c'est la conformité des blocs du dessous aux blocs de la loi. C'est pour ça qu'on appelle ça le contrôle de l'égalité. Ce qui nous intéresse du coup ici, c'est la conformité du règlement à la loi. Donc on se pose notre question qui est devenue traditionnelle maintenant. Qui est compétent pour réaliser ce contrôle? Je répète, les contrôles de constitutionnalité, qu'ils soient de conformité des traités ou de la loi, c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent, et le contrôle de conventionnalité, c'est le juge judiciaire avec Jacques Vabre, administratif avec Niccolo 14 ans après. Sur le contrôle de l'égalité, qui est compétent? Vous comprenez bien que, là encore, si on cherche à identifier le pourquoi plutôt que d'apprendre par cœur, là, ce qui va nous intéresser, c'est de contrôler la conformité d'un règlement à la loi. Le règlement, il relève de la puissance publique, de l'État, du pouvoir exécutif. On a expliqué, vous vous souvenez, les ordonnances, les arrêtés, les décrets, tout ça, c'est des textes qui sont pris par le pouvoir exécutif. Sans surprise, du coup, la juridiction compétente, a priori, ça va être celle qui est compétente pour juger des actes du pouvoir exécutif, de l'État, etc. Donc c'est le juge administratif qui est compétent pour opérer le contrôle de l'égalité. Pour ces raisons-là. Parce que ce qui va être examiné, c'est l'acte qui a été pris par la puissance publique, par le pouvoir exécutif, vis-à-vis de la loi. Donc l'organe compétent, ici, c'est le juge administratif. Et il y a deux hypothèses dans lesquelles il peut réaliser ce contrôle. C'est pour ça que je vous dis là-dessus, je vais passer beaucoup plus vite, parce que c'est des questions très techniques que vous approfondirez très nettement en droit administratif, en L2. Il y a deux modalités de contrôle. Soit le juge administratif est saisi de ce qu'on appelle un recours en annulation pour excès de pouvoir. Recours en annulation pour excès de pouvoir, et dans ce cas-là, il est compétent pour annuler l'acte qu'il va considérer comme étant illégal. Et cette annulation, elle vaut erga omnes, c'est-à-dire pour tous les citoyens, pas seulement dans le cadre du litige, comme on a vu à propos du contrôle de conventionnalité, mais vraiment pour tous les citoyens. Soit au contraire, enfin, soit parallèlement, dans une deuxième hypothèse, le juge est saisi de ce qu'on appelle une exception d'illégalité. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'annulation globale, c'est simplement une neutralisation, pour le coup, de la même manière que ce qu'on a vu dans le contrôle de conventionnalité. L'acte réglementaire demeure, mais il n'est pas appliqué dans le cadre du litige. Voilà. C'est les deux hypothèses. Soit un recours en excès de pouvoir et la suppression pour tout le monde, soit exception d'illégalité et dans ce cas-là, neutralisation juste dans le cadre du contentieux qui l'a amené à se prononcer. Très exceptionnellement, pour les exceptions d'illégalité, il y a une compétence du juge judiciaire, notamment pour certaines juridictions pénales, c'est prévu dans le code pénal, c'est très anecdotique, c'est beaucoup trop technique à mon sens pour une première année. Souvenez-vous simplement que la compétence de principe, pour les raisons que j'ai essayé d'exposer, elle est reconnue au juge administratif. Juge administratif qui peut donc soit supprimer réellement l'acte réglementaire si on est dans un recours en annulation pour excès de pouvoir, soit plus simplement, entre guillemets, neutraliser l'application dans le cadre du contentieux si on est dans une exception d'illégalité. Et de manière dérogatoire un peu exceptionnelle, vous aurez certaines compétences anecdotiques du juge judiciaire, notamment du juge pénal. On en termine là avec ce qui est, à mon sens, le point le plus technique du cours, avec ce qu'on verra dans trois cours, à peu près, qui est la question de l'application de la loi dans le temps. Ces deux trucs-là, c'est généralement les bêtes noires des étudiants en L1, en tout cas au S1. C'est compliqué, incontestablement. C'est pas le plus marrant, parce que c'est des questions de contrôle, donc c'est pas là qu'on a le plus d'amplitude pour vous raconter des choses un peu plus vivantes. C'est décisif. Donc mon conseil, c'est évidemment de reprendre le cours à tête reposée, il n'est pas exclu que là vous soyez un peu perdu, de reprendre les schémas, parce que je crois que cette thématique-là, typiquement, elle s'entend beaucoup mieux visuellement, en fait, quand on commence, qu'à lire des pavés et des pavés. Donc, aidez-vous des schémas et faites les vôtres. Ça aussi, évidemment, alors, je vous ai dit, hein, parfois, je suis un peu susceptible sur certains trucs. J'aime pas qu'on parle par-dessus moi en amphi, j'aime pas. Mais alors ça, si mes schémas, c'est une base de schémas, s'ils sont moches et qu'ils sont mal conçus et que vous avez l'impression que c'est plus clair autrement, faites vos propres schémas. Ne restez pas attachés à ça. Sur le fond, il n'y a pas d'erreur, évidemment, sinon je ne vous les donnerai pas. Mais sur la forme, faites vos schémas. Si ça vous aide à apprendre, schématisez. L'application de la loi dans le temps, vous verrez que si vous ne faites pas de schémas, c'est même pas la peine d'y aller. Encore une fois, ne croyez jamais ce qui est une espèce de légende en droit. Plus on est compétent, et plus on est technique, et plus on parle avec un vocabulaire hyper... Rien du tout. Vous serez compétent quand vous aurez compris exactement comment ça fonctionne. Et si pour comprendre exactement comment ça fonctionne, vous avez besoin de dessins, allez-y. Voilà. Et c'est comme ça qu'on devient bon. Encore une fois, c'est facile hein, d'enchaîner les expressions, c'est pas ça qui fera de vous un bon juriste ou une bonne juriste. Mais on en a terminé là-dessus sur les contrôles, et partant, on en a terminé aussi avec les sources principales. On les a toutes envisagées, on sait ce qu'on met dans le bloc de constitutionnalité, on sait ce qu'on met dans le bloc de conventionnalité, dans le bloc de légalité, dans le bloc réglementaire, le cas échéant dans les actes administratifs résiduels. Vous savez tout. Toutes les sources principales instituées existantes, maintenant vous les avez. Et non seulement vous les connaissez, mais vous savez comment elles s'organisent entre elles. Et non seulement vous savez comment elles s'organisent entre elles, mais vous savez comment, le cas échéant, en cas de conflit, on va opérer un contrôle. Qui opère le contrôle? Quelles sont les conséquences du contrôle? C'est-à-dire, est-ce que la norme est supprimée ou est-ce qu'elle est juste neutralisée? Vous venez de passer là un des très grands pans du cours d'intro. C'est fait. Voilà. Donc évidemment, vous allez le réapprofondir de votre côté. Vous allez le rebosser en TD aussi. Mais dites-vous que là, vous avez passé un des moments de bravoure du cours d'intro. Et qu'encore une fois, l'air de rien, on s'apprête déjà à achever le quatrième cours sur les 11. Donc ça passe finalement très vite. Ça nous amène du coup à une deuxième section. Évidemment, il y a marqué section 1 parce qu'à chaque fois, je me bourre. Donc c'est section 2, les sources complémentaires. Excusez-moi pour la faute de frappe. On avait donc une section 1 sur les sources principales. On attaque maintenant avec la section 2 sur les sources complémentaires. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces sources complémentaires? Je vous l'ai dit, deux grandes sources de valeur inégale, tant en termes de quantité qu'en termes d'importance. La coutume, qu'on va traiter aujourd'hui. Je vais essayer de le faire en entier, j'espère qu'on aura le temps d'y arriver. Qu'il faut connaître, mais qui est finalement d'une importance résiduelle. Il y en a beaucoup moins que ce que peut représenter la jurisprudence aujourd'hui, et elle est d'une importance dans votre apprentissage du droit qui est très secondaire. La jurisprudence, elle, par contre, je vous dis, hein, on la place dans les sources secondaires, elle est en fait, dans votre apprentissage comme dans votre pratique par la suite, une source absolument centrale. Elle est décisive, la jurisprudence. Donc on va avoir deux sources ici, deux sources complémentaires. La coutume d'abord, la jurisprudence la semaine prochaine. Encore une fois, gardez bien à l'esprit que c'est des sources de valeur inégales entre les deux. Donc d'abord, un premier paragraphe sur la coutume. Très, très particulière comme source de droit. Sans doute la plus spécifique, sans doute celle qui rentre le moins dans les cases de la règle de droit qu'on a évoquée jusqu'à présent. Elle est très particulière pour plein de raisons. Elle est particulière en raison de son origine. Je suis dans l'intro du paragraphe 1, hein, là, du coup. Elle est particulière en raison de son origine, au sens de son émetteur, de celui qui la crée. Elle est particulière en raison de sa raison d'être. Elle est particulière en raison de son fonctionnement. C'est vraiment sans doute la source de droit la plus à part entière du paysage juridique français. Si j'essaye de résumer là en introduction de paragraphe avant de rentrer dans les détails, la coutume, c'est la pratique qui s'infiltre dans la règle de droit au point d'en devenir une, d'en épouser les caractères. Mais la coutume, à l'origine, c'est une pratique. Donc vous comprenez bien du coup qu'il n'est pas question ici d'envisager la question de l'élaboration de la règle coutumière comme on a fait jusqu'à présent à propos des règles principales. Là, dans la coutume, puisqu'en fait on va y revenir dans le détail, mais puisqu'en fait c'est une pratique qui devient droit, qui devient règle de droit, la question du mode d'élaboration, elle ne se pose pas du tout pareil que pour les sources principales. Là, il n'y a pas de logique de discussion parlementaire, de ratification, de promulgation, tout ça. La coutume, c'est la traduction d'un état de fait. Voilà. C'est le constat d'une réalité factuelle qui a une force suffisamment grande pour devenir une règle de droit. Mais donc ça échappe à toutes les procédures d'élaboration de la règle de droit classique qu'on a vues. Donc on va aborder nous aussi les choses différemment et on va commencer par essayer de définir la coutume. Et on verra ensuite le rôle qu'elle adopte. Alors, d'abord, un grand A donc, sur la définition de la coutume. Il faut essayer de la définir avec précision, justement, parce qu'on comprend bien qu'elle a une nature très particulière. Donc, on va envisager d'abord ses éléments constitutifs dans un petit 1, et ensuite ses caractères dans un petit 2. Donc, premièrement, d'abord, les éléments constitutifs. On commence à comprendre maintenant que la coutume renvoie à la traduction dans une règle de droit qui est certes secondaire, hein, on est dans les sources complémentaires, les sources secondaires du droit, donc certes une source secondaire, mais une source malgré tout, une règle de droit malgré tout, c'est une traduction dans une règle de droit d'une pratique. Est-ce qu'il faut en déduire pour autant du coup que toutes les pratiques qu'on va constater dans une société, hein. Est-ce que tous les usages, tous les comportements récurrents relèvent de la coutume, ont vocation à être qualifiés de règles coutumières? Vous comprenez bien que ça n'aurait pas de sens. Si toutes les pratiques qu'on constate dans une société donnée deviennent une règle de droit, ça n'a aucun sens. Donc il y a évidemment des conditions, des éléments constitutifs pour caractériser une coutume et ces éléments constitutifs, ils jouent un peu le rôle de filtre. Toutes les pratiques ne peuvent pas prétendre à la qualification de coutume. Il faut passer le double filtre des deux éléments constitutifs qu'on va voir maintenant. Et évidemment, toute pratique n'est pas de facto une règle de droit, même coutumière. Une petite précision avant d'entrer dans le détail des arguments, des éléments constitutifs, parce que j'ai oublié d'en parler en introduction du paragraphe. très souvent dans les manuels, dans les autres sources que vous irez lire, vous allez trouver ensemble la coutume et les usages. On en parle souvent de concert. Voilà, c'est une expression un peu générique de la coutume et des usages. Il y a des distinctions malgré tout à opérer entre les deux. La coutume et les usages, là encore, ce n'est pas des synonymes exacts. Il y a une parenté évidente, une proximité évidente, hein. Mais ce n'est pas pour autant des synonymes. Il y a des points de distinction qui se maintiennent, notamment la coutume, c'est beaucoup plus directement une source du droit que les usages. Si on reprend les définitions, la coutume, c'est la règle de droit d'une origine non étatique, puisqu'elle vient de la pratique, mais qui peut avoir des conséquences juridiques. Ce n'est pas forcément le cas des usages. La définition de l'usage, elle est plus large que la pratique, et il y a des usages beaucoup moins contraignants que la coutume. Donc retenez simplement qu'on les évoque souvent ensemble, mais que la notion d'usage est à la fois plus large et moins contraignante que ne peut l'être la coutume. Une fois qu'on a précisé ça, on en arrive donc à la question centrale de nos éléments constitutifs, et c'est ce qui va nous permettre de comprendre comment la pratique peut devenir une source du droit. Encore une fois, une source complémentaire, mais ça ne change pas la qualification première de source. Il y a deux éléments constitutifs, deux caractéristiques à remplir, deux conditions à remplir pour que la pratique devienne règle de droit. La première condition, le premier élément constitutif, c'est ce qu'on appelle un élément matériel. Il faut que la pratique soit habituelle, récurrente. Une règle coutumière, elle ne peut pas le devenir en deux jours. Une pratique, plus exactement, ne peut pas devenir une règle coutumière en deux jours. Il faut qu'elle s'inscrive dans le temps. Et c'est quand elle s'inscrira dans le temps qu'elle pourra prétendre au caractère coutumier. Et il faut qu'elle s'inscrive dans l'espace aussi. Il faut qu'elle soit appliquée dans un milieu social, économique, dans un milieu géographique aussi. Parfois, on parle beaucoup des populations kanaks en ce moment. La population kanak a un droit coutumier qui est très fort. Dans l'espace géographique où se situe la population kanak, vous avez beaucoup de droits coutumiers parce que vous avez beaucoup de pratiques récurrentes qui s'opèrent dans cet espace, pour le coup géographique, mais qui s'opèrent dans cet espace-là. Si on prend l'exemple de droit coutumier plutôt sur un volet économique, dans le secteur du livre, de l'édition, vous avez aussi beaucoup d'usages qui sont devenus des règles coutumières. Beaucoup de pratiques qui n'étaient pas des règles écrites, parce que c'est l'une des particularités de la coutume. C'est de la pratique, donc c'est ce qu'on appelle des règles non écrites. Mais beaucoup de pratiques dans le secteur du livre qui ont instillé presque un droit coutumier dans ce secteur économique-là. Mais donc vous voyez qu'il y a un élément matériel, à remplir, une récurrence, une habitude dans un lieu et dans un temps long. Dans un lieu donné, dans un secteur donné, que ce soit un secteur économique ou géographique, et dans un temps important. Ça ne devient pas une coutume parce que c'est pratiqué pendant 15 jours. Il faut que ce soit dans le temps. Et ensuite, il faut un élément psychologique. Alors, à première vue, cette condition-là, elle peut vous surprendre. En réalité, elle est assez simple. Il faut que l'opinion commune, c'est-à-dire nous, hein, en tout cas l'opinion majoritaire, conçoive la pratique comme étant obligatoire. Que l'opinion commune majoritaire conçoive déjà cette pratique comme une obligation, comme une règle contraignante, et pas simplement comme une pratique. C'est ce qu'on appelle l'opinio juris, c'est-à-dire la conviction que la règle tient lieu de droit, que la règle est contraignante, déjà. En fait, les individus ont tellement assisté à la pratique qu'ils en ont déduit qu'elle était une règle de droit. Et c'est pour ça, derrière, qu'on peut dire que c'est de la coutume. C'est qu'en fait, c'est déjà dans l'esprit des gens qu'elle a un caractère obligatoire. Donc, on ne fait qu'acter ce qui était déjà dans l'esprit de la croyance commune. certains auteurs très minoritaires qui contestent l'importance de cet élément psychologique. En réalité, cet élément psychologique, il est, de manière incontestable, un élément décisif pour deux raisons. D'abord, parce que, comme je viens de vous le dire, c'est justement parce que les gens croient déjà, pour la majorité d'entre eux, que la règle est contraignante, qu'elle est légitime à le devenir. En quoi est-ce que c'est légitime de transformer une pratique en droit ? Parce que les gens pensent qu'elle l'est, pensent qu'elle est contraignante, pensent que c'est déjà une règle de droit. Donc on ne fait que traduire un état de fait. C'est l'opinion commune, en fait, qui impose le caractère obligatoire. Et donc la qualification de coutume, pardon, elle va faire que sanctuariser, que confirmer cette croyance-là. Si on conteste l'élément psychologique, alors ça va revenir à rendre contraignante une règle dont les individus pouvaient ne pas avoir conscience, ou en tout cas pas avoir conscience du caractère contraignant. Un exemple, pour que ce soit plus clair pour vous. Qui a déjà donné un pourboire dans un restaurant ou dans un bar ? Qui l'a fait parce qu'il pensait que la règle de droit imposait le fait de donner un pourboire au surplus du paiement de l'addition ? Et vous avez votre explication de l'élément psychologique. L'élément matériel, là, on l'a. On a tous, souvent de manière récurrente, habituelle, donné un pourboire, c'est-à-dire s'être livré à une pratique, là dans un milieu qui est essentiellement, pas seulement, mais essentiellement le domaine de la restauration. On s'est tous livré à cette pratique récurrente qui donc s'inscrit bien dans le temps, dans un environnement donné, une société. Donc on a rempli la condition de l'élément matériel. Est-ce que pour autant le fait de donner un pourboire est devenu une règle de droit obligatoire du fait de la coutume ? Ben non, parce qu'il manque l'opinion juriste. On le fait, mais on le fait de manière volontaire. Aucun de nous, ou en tout cas une partie très minoritaire d'entre nous, ne le fait parce qu'il pense que c'est une obligation dans le droit, que la règle de droit nous contraint à donner un pourboire. Il manque l'opinio juris, donc le fait de donner un pourboire, alors même que c'est une pratique qui remplit la première condition de l'élément matériel, c'est pas pour autant une règle coutumière. Voilà. Ça ne génère pas de règle de droit, parce que précisément aucun de nous, ou très peu parmi nous, n'a l'idée, la croyance que la règle est obligatoire. Donc, tout ça pour vous dire aussi que c'est absolument essentiel de maintenir ces deux éléments cumulatifs-là. La pratique doit être pérenne, habituelle, dans le temps et dans l'espace, première condition, et elle doit être perçue comme déjà dotée d'une force contraignante par la majorité de la population. Et alors, dans ce cas-là, il est légitime qu'elle devienne coutume. Vous voyez bien que c'est très particulier comme règle de droit parce que non seulement la règle elle-même, donc la pratique elle-même, elle est déterminée par les individus directement. Ce sont les individus directement qui se livrent à cette pratique-là. Mais en plus, c'est les individus aussi qui lui confèrent son caractère contraignant. En fait, le caractère contraignant de la règle coutumière, il n'existe que parce que les individus pensent déjà que ce caractère-là existe. Le sens de l'opinio juris, c'est ça. Donc vous voyez bien qu'en fait, ça n'a rien à voir, la règle coutumière, elle n'a vraiment rien à voir avec les règles qu'on a rencontrées jusqu'à présent. Et par ailleurs, l'une des grandes particularités qu'elle présente par rapport aux règles instituées, aux sources instituées qu'on a vues jusque-là, c'est que c'est quand même une source de droit non écrite. C'est très spécial. Vous ne pouvez pas aller consulter la coutume sur Légifrance. Vous irez lire toutes les sources écrites instituées que vous voudrez. La coutume, elle échappe à la dimension écrite. Ce n'est pas une règle de droit écrite. C'est ce qu'on appelle justement les règles de droit non écrites. C'est le fruit de l'opinion commune. C'est le fruit de l'opinion commune, pour le coup. Une fois qu'on a défini ces éléments constitutifs, il faut qu'on dise un mot de ces caractères. Donc ça fait l'objet d'un petit e sur les caractères de la règle de droit. Quels sont les caractères de la coutume ? Quels sont les caractères de la coutume ?
Quels sont ? Oh là là.
Voilà, j'ai pas de patience non plus. Parmi les petits trucs, si ça plante, je m'arrête. Hein. On va pas s'amuser à faire un set de DJ là où une fois on entend, une fois on n'entend pas, ça me gonfle infiniment. Donc, quels sont les caractères de la coutume, c'est-à-dire quelle est la façon dont elle fonctionne ? Là encore, pour comprendre, il faut essayer de faire preuve de logique. On a dit en introduction que la coutume, c'était la pratique qui s'infiltrait dans la règle de droit au point d'en devenir une elle-même. Donc, ça veut dire que la coutume, c'est une règle de droit. Ok, elle est secondaire, elle est complémentaire. Ok, elle est particulière, elle présente des spécificités. Mais pour autant, dès lors qu'on la qualifie de règle de droit, c'est qu'elle va épouser la majeure partie des contours de la définition de la règle de droit qu'on a donnée dans le chapitre 1. Sinon, il n'y a aucune raison de la classer dans les sources. Alors, c'est une source secondaire, particulière, qui présente une nature spécifique, ok, mais c'est une source. C'est une règle de droit, et en tant que règle de droit, elle va se plier à un certain nombre des considérations qu'on a déjà abordées. D'abord, elle est bien générale et impersonnelle. Extérieure, poursuivant une finalité sociale, etc. Dès lors que vous relevez son champ d'application, si vous évoluez dans le domaine du livre, si vous faites partie de la population Kanak, si on reprend les coutumes locales qu'on évoquait tout à l'heure, alors vous y êtes soumis. Peu importe que la coutume, elle concerne un petit groupe, que ce soit dans un espace géographique, encore une fois comme pour les coutumes locales Kanak, ou dans un environnement économique, comme pour le secteur de l'écrit, il y a aussi beaucoup dans le domaine agricole, il y a beaucoup de coutumes pour les ventes de bétail, etc. Vous avez un grand nombre de règles non écrites auxquelles se plient les individus qui évoluent dans ce secteur-là. Peu importe que ce soit un petit secteur géographique, économique, professionnel, etc. Dès lors que, dans un environnement donné, la règle s'applique à tous, alors elle est générale, impersonnelle, extérieure, etc. Donc cette condition-là, elle la remplit très bien. Seconde caractéristique, cette fois-ci, celle-là, elle est particulière. La seconde caractéristique de la règle, c'est sa notoriété. Vous avez bien compris à propos des éléments constitutifs que je reprends donc ici, que cette caractéristique, elle n'est pas surprenante. On a dit qu'on exigeait une récurrence de la pratique dans le temps, dans l'espace, même encore une fois si c'est un espace réduit. On exige une récurrence et une croyance commune dans le caractère contraignant. Ça veut dire que la coutume, elle est nécessairement, pour dire les choses, disons, de manière un peu familière là entre nous, la coutume, elle est nécessairement de notoriété publique, pour jouer avec les mots. Dans le secteur concerné, que ce soit un secteur géographique, économique, encore une fois, peu importe, elle est connue. Par définition, une coutume inconnue, c'est un non-sens. La coutume ne peut qu'être connue dans le secteur concerné, puisque c'est parce qu'elle est connue et parce qu'on y adosse la force qu'on y adosse qu'elle devient une règle de droit. Donc, une coutume non connue par l'opinion commune, c'est un contresens en soi. Par essence, la coutume ne peut qu'être notoire, ne peut qu'être connue de la majorité des individus qu'elle concerne. Évidemment, vous et moi, on connaît pas peu ou mal, sauf exception, hein, évidemment, je parle pour, a priori, statistiquement, la majorité d'entre nous, le droit coutumier kanak. Il faut être immergé, souvent, dans l'environnement, ou la coutume du domaine du secteur de l'édition, ou de la vente de bétail. Il faut évidemment être immergé. Quand je dis la connaissance commune, la notoriété dans le secteur identifié dans l'élément matériel. Quand vous relevez du secteur géographique ou culturel ou économique professionnelle qui est concernée par la coutume. Mais quand vous évoluez dans ce secteur-là, oui, la coutume présente un caractère notoire, c'est-à-dire qu'elle est connue de tous. Ce caractère notoire-là, il est essentiel parce qu'en fait, il pallie l'absence du caractère écrit. Elle n'est pas écrite, la commune. D'accord, je vais y arriver. Elle n'est pas écrite, la coutume. Du coup, en y pensant un peu, c'est problématique, ce caractère non écrit. Vous connaissez la règle dont on reparlera plus tard. On va analyser, et qui consiste à dire que l'une est censée ignorer la loi. Dans cette formule-là, la loi, c'est à attendre au sens large, comme la règle de droit. Aucun de nous n'est censé ignorer la règle de droit. Ok, ça marche très bien sur des règles écrites, lorsqu'on est en capacité d'aller les consulter, ces règles écrites-là. Mais comment je fais pour connaître des règles dont je ne peux pas consulter de manière certaine l'existence et le contenu ? Le problème de la règle non écrite, c'est ça. Donc le caractère notoire, le fait que ce soit connu de tous, pallie dans une certaine mesure l'absence de caractère écrit. Ceci dit, ça pose quand même des difficultés. On dit donc que c'est une règle de droit. Mais dans le cadre d'un contentieux, quand vous allez invoquer cette coutume-là, le juge sur lequel vous avez tombé, il va peut-être découvrir l'existence d'une coutume dans ce domaine. Peut-être que certains d'entre vous deviendront magistrats, je vous le souhaite. Si vous êtes confronté un jour à un contentieux où on va invoquer une coutume professionnelle locale, etc., vous, votre mission, on en parlera la semaine prochaine, ce sera d'appliquer la loi. Ben, c'est compliqué quand on ne connaît pas le contenu. Ok, en tant que juge, j'applique le droit. Mais là, de quelle règle on me parle ? Comment je fais pour m'assurer de l'existence, de la véracité de la règle ? Évidemment, du coup, la coutume, là-dessus, son caractère non écrit, pose des difficultés. Comment est-ce qu'on va faire ? On va faire appel à des experts. Vous allez avoir des experts dans certaines hypothèses. Une seconde, je vérifie si c'est pas le... Oh, quel enfer. J'ai pas de réponse. Je suis désolée, j'ai cru que vous avez une réponse sur les campus gérés. Excusez-moi. Vous allez faire appel à des experts. Alors, des experts dans un secteur professionnel donné, vous aurez des témoignages, si c'est des coutumes locales, etc. Il y a même, alors c'est pour les coutumes professionnelles, pour les usages professionnels, mais il y a la possibilité de se faire délivrer auprès des chambres de commerce des certificats. On appelle ça des certificats, on appelle ces certificats-là des parères, ça s'écrit P-A-R-E, accent grave R-E-S, si c'est au pluriel évidemment, P-A-R-E, accent grave R-E-S, P-A-R-E, accent grave R-E-S, des parères. Et donc c'est des certificats donc, qui sont établis par des chambres de commerce pour attester de l'existence d'une règle coutumière. Et donc vous voyez que c'est un vrai problème aussi là-dessus, ce caractère non écrit. Vous êtes magistrat demain, voire avocat, hein, et vous allez défendre un client qui va vous dire « mais moi je veux qu'on applique la coutume ». Oui, très bien, mais je la trouve où, en fait. Comment est-ce que je sais qu'elle existe ? Comment est-ce que je sais qu'elle est appliquée ? Comment est-ce que je sais qu'on reconnaît son caractère contraignant ? Tout ça, évidemment, c'est beaucoup plus problématique et c'est parfois beaucoup plus technique que l'application d'une loi ou d'un traité où là, finalement, une fois que c'est entré en vigueur, que ça a été ratifié, que ça fait partie du droit positif, les difficultés pour trouver la règle, elles sont très relatives, surtout avec les moyens de communication aujourd'hui. C'est, finalement, il n'y a pas tellement de difficultés. Donc, ce caractère notoire, il va pallier la difficulté, mais ça reste parfois un peu ardu, notamment sur les questions de preuve. Dernière caractéristique, la coutume est obligatoire. Elle est contraignante. Elle est contraignante, mais ce caractère contraignant, c'est vrai, il va présenter une particularité, parce que ce n'est pas toujours exactement la même chose, il ne s'entend pas toujours exactement de la même manière, et il y a en fait trois degrés, parce qu'il y a trois types de coutumes qui existent. Ouais, si on peut les faire. Et donc, là encore, je suis gourée. Ça fait l'objet d'un grand B, pour le coup, le rôle de la coutume.
Et on va voir que la couture peut avoir un rôle, un fonctionnement différent selon son contenu et surtout selon la façon dont elle coexiste avec la loi. Il y a trois grandes catégories qui sont les catégories envisagées avec un vocabulaire du latiniste, encore une fois. La coutume secundum legem, la coutume praeter legem et la coutume contra legem, vous les avez toutes les trois au tableau. Ça fait beaucoup de latin pour les réfractaires, je sais, mais vous allez voir, on va essayer d'expliciter ça. C'est finalement relativement aisé à comprendre. La coutume secundum legem, d'abord, un mot sur elle. Un petit 1 si vous voulez. Hein. Un petit 1 sur. J'ai pas mis un 2, 3 là du coup parce que j'ai le schéma, mais vous pouvez mettre un petit 1, un petit 2, un petit 3. Donc un petit 1 sur la coutume secundum legem. Littéralement, étymologiquement, la coutume secundum legem, c'est la coutume conformément à la loi, suivant la loi. Voilà. Si on veut traduire le latin, c'est ça que ça veut dire. Alors, a priori, ça peut un peu étonner comme affirmation au regard de tout ce qu'on vient de dire. Et en réalité, il est assez fréquent, enfin fréquent. Il y a des hypothèses qui existent dans lesquelles la loi renvoie elle-même expressément pardon. Alors, plus souvent à des usages, à la coutume directement pour trancher un point particulier, mais elle renvoie à des usages qui ont ici valeur de coutume, et donc il y a une espèce de passage de relais. La coutume secundum legem, c'est en quelque sorte la coutume qui est validée par le législateur parce que précisément, il y renvoie lui-même. Alors, quelles sont les hypothèses dans lesquelles le législateur va renvoyer à la coutume aux usages? Je donne un exemple, il y en aurait d'autres. Et c'est pour vous donner une idée aussi du pragmatisme du législateur. Il renvoie à la coutume quand parfois c'est des questions qui se règlent effectivement plus facilement par référence aux usages. Un exemple donc, c'est l'article 671 du Code civil. Ne le notez pas, je vais vous le lire, vous irez le chercher. Ça ne sert strictement à rien de l'apprendre. On ne parle pas du fond ici, je vous donne juste un exemple de relais entre la loi et les usages et la coutume. Donc l'article 671 du Code civil, c'est du droit des biens que vous ferez en troisième année. Et dans son premier alinéa, l'article dispose, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlement et usage, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparatrice des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Bon, 2 choses à retenir de cet article 671. D'abord, vous avez un nouvel exemple ici de ce qu'on appelait la règle supplétive avant. Vous voyez bien qu'ici, le législateur vous dit, on peut planter des arbres arbustes, etc., à la distance qui est prévue, en gros, par les règles coutumières. Et si jamais la coutume dit rien, alors la distance, c'est 2 mètres de la ligne séparative, etc. Exemple topique de la règle supplétive de volonté qu'on avait vue. Renvoi à la pratique, à défaut de pratique, application de la règle. Surtout, là, vous voyez l'intérêt d'un renvoi à des usages, à des règles coutumières. C'est des questions qui sont vraiment des têtes d'épingle. On en trouve souvent en droit des biens. La question de la possibilité de plantation d'arbustes par rapport à la propriété voisine. Bon, s'il y a des usages qui règlent déjà ça, il n'est peut-être pas inutile de faire confiance à la croyance populaire, à l'opinion juriste, à la considération globale majoritaire de ce qu'il faut faire. Souvenez-vous de cette caractéristique-là de la coutume secundum legem, elle est validée par la loi, elle est presque même, si on tire le fil jusqu'au bout, elle est presque même réclamée par la loi. C'est le législateur qui dit, si elle existe, dans certains articles évidemment, dans certaines dispositions, pas dans toutes, mais dans certaines hypothèses comme là ici l'article 671, c'est le législateur lui-même qui vous dit, si elle existe, allez-y, appliquons la coutume par préférence.
Donc vous voyez qu'elle a une nature très particulière. Ensuite, un petit 2, après avoir vu la coutume secundum legem, je vois vos visages commencer à se... On a presque fini. Petit 2 sur la coutume praeter legem. Là encore, si on a d'abord une approche étymologique du terme, c'est plus une coutume qui intervient au soutien de la loi, comme pour la coutume secundum legem, mais qui est là dans une logique de substitution. La loi est lacunaire, donc la coutume, praeter legem, va occuper l'espace. Elle existe en l'absence de la loi. C'est ça que ça veut dire, praeter legem. Donc en fait, la pratique va se positionner à un endroit où le droit ne sait pas positionner, où la loi est silencieuse. Ces règles praeter legem, elles sont de moins en moins nombreuses pour ne pas dire qu'elles n'existent plus. À votre avis, quel est le phénomène qu'on a déjà identifié précédemment et qui explique qu'il y ait de moins en moins de coutumes praeter legem? L'inflation législative. Quand je vous dis d'avoir une lecture logique du cours, c'est ce genre de réflexion-là que je veux. Pourquoi, au lieu d'apprendre bêtement qu'il y a moins de coutumes praeter legem aujourd'hui qu'il y a 50 ans? On fiche ça dans l'absolu de savoir ça. Ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à faire le lien logique avec ce qu'on a déjà vu, qui est l'inflation législative. Là, c'est des vases communicants. La coutume praeter legem, elle existe en l'absence de la loi. Il n'y a presque plus de domaines où la loi est absente. Donc il n'y a presque plus de coutumes qui existent en l'absence de la loi. Donc il n'y a presque plus de coutumes praeter legem. Voilà. On peut poser, la question était hyper intéressante, de comment on apprend si on n'apprend pas par cœur. Eh bien, on apprend comme ça. Voilà. Je veux presque un truc du FBI dans les films américains où, en fait, votre cours d'intro, c'est un mur avec des fils qui se relient et là, j'ai fait des liens, etc. Voilà. C'est ça, à mon sens, c'est comme ça que vous apprendrez correctement parce que c'est comme ça que vous en tirerez un bénéfice. Encore une fois, si vous vous appuyez mes audios de cours juste pour bachoter, apprendre par cœur ce que j'ai dit, vous l'aurez oublié 15 jours après et ça vous aura servi à rien. Il faut apprendre à penser. Et là, effectivement, bah, c'est évident. Presque plus de coutumes praeter legem parce que presque plus de silence de la loi. Voilà. Le grand exemple de coutumes praeter legem, mais qui donc aujourd'hui a reculé, c'est le fait que l'épouse prenne le nom de son mari. Pendant très, 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 très longtemps, ça a été un automatisme. C'était une règle, alors, supplétive, pour le coup, mais coutumière, que la femme prenne le nom de son mari. Alors, je ne sais pas si... Ceux qui ne veulent pas répondre, il y a évidemment un droit à la vie privée que je respecte totalement, mais c'est pour voir les évolutions. Parmi vous, ceux qui ne veulent pas répondre ne répondent pas. Est-ce que vos mères ont pris le nom de vos pères dans l'amphi? Ceux pour qui c'est oui. Et les grands-parents? En fait, vous verrez, et vous, si vous vous mariez, ce n'est pas... Alors, quand ils prennent le nom, c'est une substitution. C'est-à-dire, le nom de famille de la mère, qui reste son nom de famille, hein, peu importe, se substitue par un nom d'usage, disparaît au bénéfice du nom du mari. C'était 100% des mariages jusque dans les années 90-2000 presque. Maintenant, il y a parfois le fait d'accoler, Bibi a accolé, voilà. Il n'empêche que, et c'est là que c'est intéressant, on peut faire le contraire, hein. Qui parmi vous a le père qui a pris le nom de la mère? En soi, en droit, il n'y a aucune règle qui l'empêche. Bien sûr, ça se fait, aucun problème. En fait, la règle de droit, elle est ouverte. L'épouse peut substituer son nom de famille à un nom d'usage qui serait le nom du mari. Elle peut accoler les deux dans l'ordre qu'elle veut. L'inverse est vrai aussi. Le mari peut substituer son propre nom de famille à un nom d'usage qui vient au nom de l'épouse ou accoler le nom de l'épouse. Et maintenant, sur des jeunes couples, vous le voyez faire parfois, où ils adossent les deux en même temps. C'est un des fils Beckham, je ne sais plus lequel, Mais il y a un des fils Beckham qui s'est marié, vous irez voir. Et en fait, lui et sa femme ont accolé leurs deux noms dans le même sens. Donc, ils portent leurs deux noms respectivement. La coutume praeter legem, c'est-à-dire qui venait parce que la loi ne prévoyait rien, a reculé de plus en plus parce que la pratique change. C'est aussi ce qui est très intéressant dans la coutume. Elle est fluctuante. En tout cas, elle est susceptible d'évoluer avec la société. Sur une question comme ça, qui aujourd'hui dans l'amphi, alors j'ai un peu spoilé la réponse, donc je triche, mais si vous êtes honnête, qui aurait pensé avant qu'on parle de ça, qu'il y avait une obligation légale pour la femme de substituer son nom à celui du mari, avec le mariage? Et il n'y a pas de honte, hein, c'est intéressant de le voir. Voilà. Qui pensait que ce n'était pas le cas? Voilà, donc vous êtes une majorité immense. Je faisais le même sondage sur la même question il y a 20 ans, j'avais 99% de l'amphi qui levait la main. L'opinion juris bouge. C'est hyper intéressant comme exemple. Et si je fais le sondage dans 15 ans, si ça continue comme ça, a priori, j'aurai plus personne qui aura levé la main. Voilà. Parce que les enfants que j'aurai, que vous aurez, etc., auront évolué dans un environnement où ils savent très bien que ce n'est pas du tout une obligation, que le père, parfois, comme le nom de la mère, substitue son nom au nom de la mère, et pour eux, la question ne se posera plus. L'opinion juriste, elle bouge. Bref, ça c'était pour la coutume praeter legem. Un mot de la coutume contra legem, et on s'arrête pour cette semaine. Attendez. Ouais, c'est ça, pardon. Un petit 3, donc, sur la coutume contra legem. Alors celle-là, c'est la plus surprenante. La coutume contra legem, c'est la coutume contre la loi, en contradiction avec la loi. Donc là, il y a une hypothèse de conflit. Votre réaction de base, ça devrait être, puisque la coutume contredit la loi, la coutume est privée d'effet. Et vous auriez raison. La loi, le règlement sont constitutionnellement chargés de la création de la règle de droit. Ce n'est pas le cas de la pratique. Donc s'il y a une pratique qui entre en concurrence avec une règle de droit instituée, principale, cette coutume, elle doit sauter. C'est la logique de base. Ceci dit, s'il y a une coutume contra legem qui s'est développée, c'est finalement sans doute que la société a mal compris la règle de droit qui est confrontée à la coutume, dans la coutume contra legem. Ça veut dire qu'on a développé une pratique contraire à la loi. Donc c'est sans doute que la société a mal compris. Ça arrive, ceci dit, les coutumes contra legem, notamment quand la loi est tombée en désuétude. Je vous reparlerai de cette notion-là plus tard, mais retenez dès maintenant que, en fait, c'est une loi qui n'a pas été supprimée, donc qui reste dans le droit positif, mais qui, pour autant, n'est plus appliquée. Et elle est plus appliquée parce qu'il y a une pratique contraire qui a pris le relais. Elle existe aussi, notamment en droit commercial, cette hypothèse de la coutume contra legem. Je vais vous épargner l'exemple parce que il est évidemment compliqué à comprendre. Sachez simplement que dans de très rares cas, on tolère l'idée, et le juge au premier titre tolère l'idée qu'une pratique puisse s'être développée en sens contraire d'une loi. Au premier titre, quand la loi est tombée en désuétude, exceptionnellement quand on est en matière commerciale entre professionnels. Mais c'est très rare. Retenez surtout sur la coutume contra legem l'hypothèse de la loi tombée en désuétude. Et la loi tombée en désuétude, je vous en reparle dans un cours suivant quand on fera la loi dans le temps. Je conclue mon propos sur la coutume ici. C'est bien une source du droit. Elle est secondaire, elle a des caractéristiques particulières, notamment parce qu'elle ne repose pas sur l'écrit mais sur la croyance commune. Mais elle est bien pour autant une source du droit. Ceci étant, on s'est bien rendu compte, notamment avec la coutume praeter legem, qu'elle avait ceci d'intéressant, que puisqu'elle n'était pas écrite, elle n'est pas immuable. C'est pas comme l'écrit, hein. Une pratique, ça évolue. Et que donc, le cas échéant, quand elle concerne les pratiques de société qui sont appelées à évoluer, le nom de l'épouse, c'est sans doute le meilleur exemple en termes de clarté, elle est susceptible d'évoluer différemment de la règle de droit écrite. Elle sera tributaire par définition de cette opinio juris. Donc si l'opinio juris, c'est-à-dire encore une fois la croyance dans le caractère contraignant, évolue, voire disparaît, alors la règle, elle est appelée à disparaître en même temps que l'opinion commune. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Qui est paumé? Pour qui est-ce que ça va? Bon, c'est top. Je vous remercie d'être aussi nombreux, c'est extrêmement agréable. Je vous tiens au courant sur Twitter si j'y arrive, je poste ça tout à l'heure au lien, et on se revoit la semaine prochaine. Bon courage!